autour de la question. Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
En quoi ça nous touche?
Antonio Fischetti.
Bonjour, heureux de vous retrouver avec Hugo Violas à la réalisation. En ce moment, c'est la semaine du cerveau, un événement durant lequel les neuroscientifiques vont à la rencontre du grand public dans toute la France. Et à cette occasion, nous allons nous interroger sur un phénomène très particulier, la façon dont notre cerveau peut nous rendre dépendants. Il y a bien sûr la consommation de drogues, dont certaines sont illicites, comme le cannabis ou la cocaïne, mais d'autres parfaitement légales, comme l'alcool ou le tabac. Mais il y a aussi certains comportements, les jeux, l'abus d'internet ou même le sexe qui peuvent entraîner une dépendance. Que se passe-t-il alors dans le cerveau? Quels sont les points communs et les différences entre les drogues? Peuvent-elles modifier durablement le fonctionnement des neurones? Certaines personnes sont-elles plus vulnérables que d'autres? Et comment se libérer des addictions? Pourquoi notre cerveau n'en fait-il parfois qu'à sa tête? C'est notre question du jour et nous allons en faire le tour avec notre invitée, la neurobiologiste Jocelyne Caboche. Jocelyne Caboche, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes neurobiologiste, directrice de recherche au CNRS et à Sorbonne Université. Vous travaillez sur l'effet des addictions, des drogues sur le cerveau et sur les bases neurobiologiques de leur mécanisme à l'intérieur du cerveau. Vous êtes également secrétaire de la Société des neurosciences et vous participez très activement à la Semaine du cerveau. Alors, de quoi s'agit-il?
Alors, d'abord, juste une petite modification. Je suis trésorière de la Société des neurosciences, je suis désolée.
Trésorière et non secrétaire.
Voilà, je ne voudrais pas que la secrétaire soit vexée. Oui. Alors en fait, les addictions, ça a longtemps été considéré comme un manque de volonté, une espèce de faiblesse d'un individu face à la consommation d'une substance. Aujourd'hui, on définit l'addiction comme une maladie mentale, une maladie psychiatrique, des modifications chroniques et durables. Des propriétés.
Donc c'est pas simplement un manque de volonté,
non.
C'est-à-dire c'est une maladie dont
c'est
on peut véritable caractériser par des mécanismes dans le cerveau et qu'on peut aussi soigner donc.
Alors, donc en fait, c'est une maladie mentale, psychiatrique, qui est définie par des critères bien, bien précis. Et effectivement, les neuroscientifiques travaillent sur, que ce soit des cliniciens, des psychiatres, des médecins spécialistes en imagerie cérébrale ou des chercheurs en sciences fondamentales, on travaille sur les mécanismes qui
Et vous-même, comment vous faites alors pour faire vos expériences? C'est avec des gens, avec des animaux?
Non, alors moi, que je suis chercheur fondamental, c'est-à-dire que j'utilise essentiellement des modèles cellulaires et moléculaires.
Cellulaires. Sur des cellules.
Et sur des modèles animaux, parce qu'on on a réussi, les chercheurs, depuis plusieurs dizaines d'années, ont modélisé l'addiction, même si c'était pas évident, a priori, de modéliser l'addiction chez une souris ou chez un rat, on arrive à reproduire certains des effets produits par les substances addictives chez ces animaux.
Et vous travaillez sur quelle drogue?
Alors moi je travaille sur la cocaïne.
Sur la cocaïne. Voilà, eh bien nous allons y revenir, mais auparavant, un petit mix, quelques pistes de réflexion sonore avec ce mix d'Hugo Violas.
Monsieur Bramard, cigarette?
Merci, j'essaie de commencer.
Le fléau du tabac avec les chiffres édifiants concernant les jeunes, 8,5% des 12-14 ans fument, un chiffre d'autant plus inquiétant qu'une étude américaine montre que les enfants deviennent très rapidement accros à la nicotine. Dès la première cigarette, c'est souvent l'engrenage.
Quel sport pratiquez-vous?
La guerre pendant 25 ans.
La bigorexie, c'est la maladie de certains sportifs qui sacrifient tout pour le sport. Leur famille, leurs amis, leur corps, jusqu'à tomber parfois dans la dépression.
Maxime a 19 ans et le bac en poche. Il vit à Brest avec ses parents, son frère et sa sœur. Apparemment une famille heureuse, pourtant il traverse actuellement une épreuve. Maxime sort à peine d'une grave dépendance au cannabis.
Va boire un verre ou pour la peau, ben?
Vous avez beaucoup boire?
Moi, pas trop quand même, parce que mon foie est en train de me lâcher.
Je sais.
Mais si, on va boire bien un peu, mais moi, je rentrerai dans un état plus que correct. C'est elle qu'on va retrouver minable et c'est moi qui la porte. On échange des fois, parce que sinon, c'est pas cool pour moi.
T'arrêtes, cocaïne.
Quand j'étais sous cocaïne, je me sentais intouchable. Et c'est ça qui me donnait envie d'en reprendre.
L'héroïne, il y en a de moins en moins. C'est ce que je constate sur le terrain.
Les drogués se tournent de plus en plus vers des produits qu'ils trouvent en pharmacie ou fabriqués avec des médicaments. Et malheureusement, c'est encore pire que tout.
Vous voyez ce qui compte dans la vie, quand on a la santé, c'est de bien manger, bien boire et bien faire l'amour.
Alors Jocelyne Caboche, dans ce mix, on a entendu différentes références au cannabis, à la cocaïne, au tabac, et au sexe aussi. Alors pour vous, neurobiologiste, est-ce que ça, c'est raisonnable de parler de toutes ces substances, de tous ces comportements de la même façon, ou est-ce qu'il y a vraiment des différences radicales ?
En fait, toutes ces substances agissent différemment sur le mental. Mais elles ont tout un mécanisme commun, c'est de modifier des circuits dans le cerveau qui finalement vont conduire à la dépendance.
Ce que vous dites alors en fait, c'est que même si l'effet est très différent, par exemple l'héroïne va plutôt provoquer un état de léthargie, la cocaïne est un excitant, etc. L'alcool aussi, bon ben c'est différent comme effet. Mais par contre, il y a un point commun entre toutes ces drogues, qu'elles soient légales ou pas.
Exactement. Donc ce point commun, c'est d'agir dans une région très spécifique du cerveau qu'on appelle les circuits de la récompense.
Circuits de la récompense,
c'est-à-dire... Donc en fait, toutes ces drogues agissent un petit peu sur des sites différents au niveau du cerveau, mais elles ont un moment donné, elles convergent sur ces circuits de la récompense qui sont des circuits qui sont normalement impliqués dans la prise de décision et la motivation.
Mais qu'est-ce que ça veut dire, circuit de la récompense dans le cerveau ? C'est-à-dire, bon, un élève qui a réussi son examen, il va avoir une bonne note. Ça, c'est une récompense. Mais alors, le cerveau, voilà. C'est quoi une récompense pour le cerveau ?
Ben, en fait, les récompenses, elles activent un messager chimique qui s'appelle la dopamine. Donc, ce messager chimique va être augmenté, libéré dans certaines régions du cerveau. Et il va guider notre comportement, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à reproduire un comportement quand il est associé à une réponse, une récompense, et à l'opposé, à inhiber notre comportement s'il y a une punition.
Si on comprend bien, ça veut dire que par exemple, l'usager de cocaïne, puisque c'est votre drogue de travail, hein, va prendre sa dose. Ensuite, son cerveau va libérer de la dopamine, donc il va éprouver un bien-être relatif, certes, mais un bien-être en tout cas grâce à cette récompense que le cerveau lui a donnée.
Alors, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que la cocaïne, elle va hacker un peu ce système.
Hacker comme un
elle va le corrompre,
pirate elle va le qui va pirater un ordinateur.
C'est-à-dire qu'elle va produire beaucoup, beaucoup plus de dopamine que normalement une récompense normale.
D'accord, puisqu'il y a toujours de la dopamine qui est produite. Là, elle est produite
de façon exagérée. Et voilà. En fait, toutes les substances addictives, et même certains comportements comportements addictifs, produisent cette augmentation
exagérée
de dopamine.
Mais tout aussi bien l'alcool que la cocaïne, que le jeu compulsif.
Voilà, toutes ces activités qui induisent une addiction, enfin ces activités, surtout les substances chimiques, ça a été démontré de façon clinique et préclinique, augmentent ce messager chimique.
Et il peut y avoir des effets néfastes, négatifs, on va y venir. Mais auparavant, écoutons cette question du neurologue Richard Frankowiak.
Quand on regarde l'histoire humaine, on voit que l'être humain a toujours été intéressé à moduler l'activité de ces molécules avec d'autres molécules qu'il ingeste ou qu'il inhale ou qu'il sniffe, etc., etc. Donc pour moi, l'addiction en elle-même, c'est banal. Par contre, ce qui est pas banal, c'est l'industrialisation de l'addiction et tout ce qui va avec. J'imagine historiquement, au moins en Europe, c'est le tabac qui a commencé, mais en ce moment, une des grandes molécules addictives, c'est le sucre, qui nuit à notre bien-être, surtout à la fin de la vie. Donc, l'addiction en elle-même m'intrigue pas. Les molécules qui deviennent intéressantes à l'être humain et comment ils interagissent avec notre construction moléculaire elle-même, là, ça m'intéresse.
Autour de la question, pourquoi notre cerveau n'en fait-il parfois qu'à sa tête ? Jocelyne Caboche, ce que vous inspire ce témoignage de votre confrère, Richard Frankowiak, qui est neurologue ?
Moi, je voudrais déjà rebondir sur l'addiction, c'est banal et c'est pas inquiétant. Moi, je dirais, si, c'est très inquiétant. On considère qu'il y a, des études épidémiologiques ont démontré qu'il y avait 73 000 morts par an à l'addiction au tabac, 39 piles pour l'addiction à l'alcool. Donc des morts qui sont associées effectivement soit à des overdoses, soit à des effets secondaires.
Oui, peut-être que ce que Richard Frankowiak voulait dire, c'est que la consommation de substances est une chose, et après il y a l'addiction qui est la dépendance et l'abus qui, bon voilà, est peut-être produit par des substances tout à fait banales comme le sucre.
Il oui, effectivement, il y a une industrialisation des produits qui sont alimentaires qui sont modifiés de façon à ce que ce soit de plus en plus addictif.
Mais il parlait du tabac également. On entend dire que les fabricants de cigarettes se sont arrangés pour que les cigarettes soient encore plus addictive. Est-ce que c'est possible ça, et comment on fait pour rendre des cigarettes addictives?
Ben, en fait, effectivement, c'est le contenu en tabac et en nicotine hein, qui peut rendre de plus en plus addictif. C'est la nicotine, c'est le produit actif, mais il y a aussi des contenus du sucre, ça fait partie des métabolites hein, de la nicotine, enfin de la dopamine notamment dans le cerveau, qui rendent encore plus addictifs les cigarettes.
Mais hein. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Puisque vous parliez donc avant ce témoignage hein, de la production de dopamine en surcroît, c'est-à-dire vraiment une grosse quantité de dopamine dans le cerveau. Ça c'est une chose. Mais ensuite alors, quand commence l'addiction? Puisque en quelque sorte on peut dire que il s'agit de plaisir, mais c'est tellement bon qu'on en redemande, qu'on en redemande, qu'on en redemande. C'est ça, en fait, le mécanisme.
On n'est pas addictif, forcément. Alors, on va parler des personnes adultes hein, qui vont prendre du tabac ou de l'alcool. On n'est pas addictif à la première cigarette, au premier alcool. C'est des consommations qui vont se répéter, qui vont progressivement induire de la dépendance. Ce qui est important, c'est de préciser que cette dépendance qui va conduire... Alors, si, je vais juste me permettre de définir ce que c'est que l'addiction.
Oui.
C'est la perte de contrôle sur l'utilisation, l'usage d'une drogue ou d'un comportement.
On n'est plus maître, c'est-à-dire ça n'est plus un usage récréatif ou occasionnel.
Et ça devient une activité compulsive, c'est-à-dire qui n'est plus du tout contrôlée, comme vous dites. Et au détriment, même si on sait qu'il y a des conséquences négatives.
C'est-à-dire c'est le circuit de la récompense qui prend le dessus sur le libre arbitre de la personne.
Absolument, voilà. Donc en fait, ce que fait la dopamine en excès, c'est qu'elle agit... dans des neurones, sur des neurones, et elle va produire des modifications des propriétés de ces neurones qui vont avoir une marque durable, hein, qui vont modifier ces propriétés sur le temps. Sur le temps.
Donc il y a une marque, cela imprègne le cerveau durablement, voilà. D'une certaine façon. C'est tellement fort, ce circuit de la récompense, que tout le reste devient banal à côté.
Exactement,
d'une certaine façon.
Voilà. Donc c'est une espèce de mémoire pathologique.
Hein, mémoire pathologique.
Voilà, une mémoire pathologique associée donc au plaisir. Voilà. C'est une mémoire nocive, mais durable et persistante, et forte, quoi.
Écoutons alors cette chanson d'un autre addict, Serge Gainsbourg, Catherine Deneuve, qui l'a peut-être un peu moins dans cette chanson « Dieu est un fumeur de Havane ».
Dieu est un fumeur de Havane. Je vois ces nuages gris. Je sais qu'il fait le même la nuit, comme moi, ma chérie.
Tu n'es qu'un fumeur de gitane. Je vois tes volutes bleues me faire parfois venir les larmes aux yeux. Tu es mon maître après Dieu.
Dieu est un fumeur de Havane. C'est lui-même qui m'a dit que la fumée envoie au paradis. Je le sais, ma chérie.
Tu n'es qu'un fumeur de gitane. Sans elle, tu es malheureux. Au clair de la lune, ouvre les yeux. Pour l'amour de Dieu.
Dieu est un fumeur de Havane. Tout près de toi, loin de lui, j'aimerais te garder toute ma vie. Comprends-moi, ma chérie.
Tu n'es qu'un fumeur de gitane. Je veux
Cours de la question, nous parlons aujourd'hui des addictions avec la neurobiologiste Jocelyne Caboche, chercheuse donc au CNRS et à Sorbonne Université à l'occasion de la semaine du cerveau. Jocelyne Caboche, vous nous aviez donc expliqué pourquoi finalement les drogues c'est quand même bon mais pervers, mais il y a aussi des effets très négatifs, évidemment. Alors, il peut y avoir donc de la désocialisation, des overdoses, ce genre de choses, des maladies. Mais j'aimerais que vous nous précisiez, du point de vue de la neurobiologiste que vous êtes, quels sont les effets négatifs dans le cerveau. Par exemple, l'effet de manque. On vient d'écouter Serge Gainsbourg, quelqu'un qui est accro à sa substance, que ce soit l'héroïne, la cocaïne ou la cigarette. À un moment donné, il peut être en manque. Qu'est-ce qui se passe alors dans le cerveau?
Bah, en fait, effectivement, c'est qu'en détournant ces circuits de la récompense, il y a une recherche compulsive de la drogue. Et si on décide d'arrêter de fumer ou de boire ou de ralentir la consommation, d'abord, on n'est pas tout à fait maître de cela, mais on peut se faire accompagner. Ce qui arrive, c'est qu'en fait, il y a un phénomène secondaire qui arrive, c'est la dépression nerveuse. C'est-à-dire qu'en fait, le manque va induire des mécanismes qui sont semblables à la dépression nerveuse.
Mais on sait ce qui se passe dans le cerveau quand il y a du manque, puisque vous nous aviez dit qu'on sait que quand il y a le plaisir, c'est la dopamine qui agit, mais quand il y a du manque, c'est quoi? C'est une autre substance?
Mais en fait, il faut dissocier le plaisir et le bonheur. Le plaisir, c'est la dopamine. Le bonheur, on va dire, c'est plutôt la sérotonine, qui est une autre molécule qui est très importante dans le cerveau et qui, pendant la période de sevrage, lorsqu'il y a un manque, cette molécule est complètement effondrée. Donc c'est ce qui produit en fait des symptômes de type dépressif.
Donc en fait, il y a un manque de sérotonine.
Voilà, il y a un déséquilibre entre, bon, il n'y a plus la récompense, mais il n'y a plus le bonheur non plus.
Mais est-ce qu'on ne pourrait pas alors s'acheter, alors, quand quelqu'un est en manque par exemple, pour l'aider dans son sevrage, s'acheter des pilules de sérotonine et puis les consommer alors.
Prendre des antidépresseurs, mais ça ne va pas remplacer l'addiction complètement en fait. Ça ne va pas compenser le mécanisme de dépendance induit par les substances.
Et on parle souvent du fameux phénomène de descente. On dit donc il y a la montée quand on prend de la drogue, et après il y a la descente. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans le cerveau pendant la descente?
En fait, le problème, c'est que ce mécanisme d'addiction met en place une espèce d'ascendance, on va dire, du plaisir. Et à un moment donné, il va y avoir ce qu'on appelle la tolérance. C'est-à-dire qu'en prenant les mêmes quantités de substances, on n'aura plus les mêmes effets. Donc on n'arrivera plus à satisfaire les besoins de la
société. Non, mais juste au moment où on arrête, quoi, quand quelqu'un a pris sa dose.
C'est là il y a une espèce de dépression complète de tous les systèmes, tout s'effondre.
Ah oui, comme un château de cartes, quoi.
Il reste quand même le mémoire de la drogue, mais tous les autres circuits sont déréglés, on va dire.
Et ces différentes substances sont plus ou moins addictives. On a établi, je crois, une échelle de l'addiction. Alors, qu'est-ce qui vient en quelques mots? Qu'est-ce qui vient en tête et qu'est-ce qui vient?
Alors, en tête, il y a la nicotine.
Donc, le tabac.
En fait, le tabac.
C'est la plus addictive des substances. Et pourtant, c'est celle qui est légalisée.
C'est celle qui est la plus utilisée, effectivement. Et c'est celle qui induit le plus de dépendance.
Ensuite, beaucoup plus alors que
l'héroïne.
Que l'héroïne même. Ouais,
devant l'héroïne. Ensuite, c'est héroïne, cocaïne, alcool et cannabis. En fait.
Cannabis tout à fait en bas.
Cannabis, c'est 9%. C'est-à-dire que si on considère...
9% de quoi? D'addiction.
9% des personnes qui consomment du cannabis qui deviennent addictes.
C'est quand même très étonnant puisque le cannabis est interdit, le tabac est en vente libre et le tabac est beaucoup plus addictif que le cannabis.
Oui, mais pour autant, le tabac est nocif, il induit beaucoup d'effets secondaires, des maladies importantes. Le cannabis est interdit, c'est vrai que son usage intensif n'est pas non plus, même s'il rend dépendant à plus long terme, il n'est pas très bénéfique non plus. Enfin bon, je sais qu'on parle du cannabis, ses propriétés thérapeutiques.
Oui, enfin bon, après c'est un autre débat, mais on va y venir un tout petit peu après. Mais auparavant, écoutons cet extrait d'un reportage justement qui parle des antidouleurs aux États-Unis.
Partout dans le pays, des hommes et des femmes de tous âges perdent brutalement connaissance. Dans un bus à Philadelphie, au volant d'une voiture à Détroit.
Réveillez-vous ! Réveillez-vous !
Au milieu d'un repas de famille à New York. Tous sont victimes d'overdoses d'opioïdes, des médicaments antidouleurs vendus en pharmacie, mais qui provoquent une accoutumance pire que l'héroïne. Des molécules qui désormais tuent plus qu'elles ne soignent. C'est aujourd'hui la cause de mortalité numéro 1 aux États-Unis, devant les armes à feu et les accidents de voiture.
Ce garçon de 10 ans est la plus jeune victime de cette crise des opioïdes.
Jocelyne Gaboche, c'est assez effrayant. Cause de mortalité numéro 1 aux États-Unis, donc les opioïdes. Alors c'est un extrait de l'émission L'effet papillon sur Canal+, un mort sur ordonnance. Vous connaissiez évidemment ce phénomène, alors comment l'expliquer ?
Alors au départ, ces opioïdes, donc c'est essentiellement l'oxycontin, donc qui est un médicament en fait, c'est une substance qui est donnée pour traiter les
douleurs. Qu'on trouve sur ordonnance,
qu'on prend sur ordonnance, sur pharmacie, enfin... Et surtout pour des douleurs chroniques très intenses. Et donc il y a eu une grosse commercialisation de ce produit aux États-Unis. Et surtout on l'a vendu comme étant non addictif, ce qui était au départ complètement faux. Mais toujours dit-il que les personnes, les sujets qui ont pris cette substance sont très vite devenus addicts, à tel point qu'en fait, il y a eu une recherche compulsive de ce produit au-delà de l'ordonnance. C'est-à-dire que c'est devenu un vrai trafic.
Est-ce que cela produit quel effet ? C'est relaxant ?
C'est essentiellement pris. C'est comme la morphine, en fait. C'est pris comme un antidouleur. Donc, en fait, voilà, ça calme les douleurs, ça relaxe, effectivement. Mais ça produit des overdoses parce qu'effectivement, on a besoin de plus en plus de consommation de ce produit pour... pas pour traiter la douleur, mais du coup...
Et d'ailleurs, une overdose, alors, qu'est-ce que c'est exactement ? On meurt de quoi quand on meurt d'overdose ?
Là, essentiellement, pour ce genre de composés, ce sont des détresses respiratoires. C'est-à-dire que, en fait, bon, le système nerveux central gouverne de nombreuses fonctions vitales. Et quand on en prend trop de ces substances-là, effectivement, il y a une détresse respiratoire qui fait que
le cerveau ne commande plus la ventilation. Oui. Mais ça n'est pas forcément ça dans le cas, par exemple, d'une overdose de cocaïne.
Les effets sont différents.
C'est le cœur qui lâche.
Ce sont des effets qui sont différents. C'est un psychostimulant, ça n'agit pas de la même façon. Mais effectivement, il y a une overdose dans tous les cas qui peut être fatale.
Et parlez-nous un petit peu de vos recherches. Vous nous disiez que vous faites donc des expériences sur des souris. D'abord, comment vous faites pour vous procurer de la cocaïne ? Vous avez votre dealer au CNRS ?
Non, c'est très légalisé. On est obligé de remplir des dossiers extrêmement réglementés, de justifier au milligramme près l'utilisation de la cocaïne.
Mais elle vient d'où cette cocaïne que vous utilisez ?
C'est essentiellement des instances ministérielles, en fait, qui...
Des saisies de douane, en quelque sorte.
C'est des saisies de douane, exactement.
Et donc, vous en donnez à vos souris, et puis ensuite, vous essayez
de...
En fait,
on a des tests comportementaux qui sont assez sophistiqués, qui permettent de reproduire les différentes étapes de l'addiction. Et donc, on mesure les effets de la cocaïne dans ces modèles comportementaux. On va voir l'hyperactivité, par exemple, avec la cocaïne. On va voir la recherche d'un endroit associé à la prise de cocaïne. Donc ça s'apparente à l'influence de l'environnement.
Est-ce qu'on peut transposer les résultats obtenus avec des souris aux êtres humains ?
Parfaitement. En fait, la recherche chez la souris a commencé il y a très très longtemps, il y a plusieurs dizaines d'années. Et cette notion de circuit de la récompense a été initialement mise en évidence par différentes approches. C'est-à-dire qu'après, on va rechercher dans le cerveau, on va regarder les cellules, on va regarder leur morphologie, on va regarder...
C'est tout à fait transposable.
Et tout ça, ensuite, ça a été transposé à l'homme. Et il s'avère qu'on a retrouvé effectivement les mêmes circuits chez l'homme par des études d'imagerie cérébrale. Des études plus sophistiquées aussi chez le singe ont été faites qui ont permis de mettre en évidence cet effet, ce rôle de la dopamine.
Mais c'est un petit peu plus évident chez le singe dans le sens où on est plus proche du singe que de la souris quand même.
Non, parce qu'en fait, sans être anthropomorphiste, en fait, c'est très, très conservé finalement.
Oui, alors justement, donc vous dites qu'il y a des points communs entre notre réaction humaine devant les drogues et puis celle des souris, mais il y a quand même des différences entre les humains. Écoutons ce témoignage du neurobiologiste Bassem Hassan.
Ouais, ce qui m'intéresse, moi, c'est en fait la différence interindividuelle. C'est-à-dire, on a plein de gens qui essayent toutes sortes de drogues. Et il y en a des personnes qui sont sensibles à certains types et pas d'autres. Et il y en a des personnes qui sont des personnalités addictives, c'est-à-dire qui développent des addictions à n'importe quoi.
Jocelyne Gaboche, est-ce qu'on peut parler de personnalités addictives, de gens, comme le dit Bassem Hassan, qui vont avoir présenté des addictions pour tout et n'importe quoi, alors que d'autres vont essayer des drogues et puis vont être totalement résistants face à l'addiction?
Oui, effectivement, la personnalité addictive, on pourrait la définir comme une vulnérabilité qui s'est progressivement installée avec par l'environnement, c'est-à-dire par les conditions sociales, par les stress au cours de l'enfance, et tout ça, ça va impacter en fait.
Par l'environnement, mais ça n'est pas génétique a priori.
C'est pas forcément génétique. Alors il y a un facteur génétique. On considère qu'il y a environ 50% de facteurs génétiques pour la vulnérabilité aux drogues. Comme le disait très bien mon collègue, effectivement, tout le monde ne va pas forcément devenir addict.
Quand vous dites 50%, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que si on prend par exemple 100 personnes qui vont prendre du cannabis, il y en aura 50% qui vont devenir addicts au cannabis, alors, c'est ça ?
C'est 50% en fonction des drogues, hein, donc ça c'est un chiffre un petit peu global, général. Pour le cannabis, ça peut être un petit peu moins. Donc ces facteurs génétiques, ce sont des mutations au niveau de l'ADN. Vous savez qu'on a des maladies héréditaires, des maladies associées à des gènes qui ne sont pas normaux.
C'est une prédisposition,
c'est une prédisposition. Donc là, on a détecté justement certains gènes qui étaient mutés et qui prédisposent à l'addiction au tabac.
On les a détectés, ces gènes identifiés.
Il y en a quelques-uns, mais ces mutations ne sont pas présentes chez toutes les personnes addictes. A contrario, on peut dire que lorsque ces mutations sont présentes, alors on a une grosse probabilité pour devenir addict.
Mais il y a donc des prédispositions génétiques, mais ensuite, évidemment, l'environnement. Qui va favoriser ces prédispositions
voilà.
ou pas.
C'est ce que l'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire comment l'environnement modifie notre génome ou l'expression de notre génome. Et l'épigénétique est directement associée à l'environnement, c'est-à-dire que, par exemple, on sait très bien qu'un adolescent, donc je le disait très bien notre interlocuteur tout à l'heure, les jeunes peuvent devenir beaucoup plus vite addicts. Et en tout cas, un jeune qui va prendre sa première substance, nicotine, cannabis, à l'âge adolescent, un facteur 10, sa probabilité de devenir addict à l'âge adulte est multipliée d'un facteur 10.
Puisque ça va, modifier
son
organisme.
Son cerveau n'est pas mature. Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez nouveau, on va dire, en neurobiologie. C'est qu'on pensait que la maturation du cerveau était finie assez vite, dès les premières années après la naissance. Or, maintenant, on sait que chez l'adolescent, le cerveau n'est pas tout à fait mature. Et effectivement, il va y avoir une empreinte de l'environnement sur ce cerveau qui n'est pas mature, qui va prédisposer à l'addiction. Et ça peut être l'addiction à effectivement n'importe quoi. Donc ça peut définir la personnalité addictive, comme le disait notre collègue.
Mais je crois qu'il y a eu des travaux, peut-être contestés, mais en tout cas qui ont été publiés, qui laissent penser que cette vulnérabilité pourrait se transmettre à la descendance, aux enfants. Autrement dit, on prend cet adolescent qui va consommer certaines substances, qui va devenir dépendant. Eh bien, si lui-même a des enfants, même si ces enfants, a priori, n'ont pas touché à des substances addictives, vont présenter la même vulnérabilité. Est-ce que c'est
oui, alors là, il y a quelques évidences, on va dire, scientifiques en faveur de cette hypothèse. Donc, ce qu'on appelle l'aspect transgénérationnel, c'est-à-dire on va transmettre notre vulnérabilité à nos générations, aux générations suivantes. Il n'y a pas d'évidence stricte pour l'instant chez l'homme, seulement chez des animaux, enfin des espèces très simples, hein, qui sont des vers de terre ou chez la souris, on a aussi. Mais il y a une différence entre ce qui est transgénérationnel, c'est-à-dire qui se transmet par le génome, par l'ADN, et ce qui est intergénérationnel, c'est-à-dire effectivement l'influence de l'environnement chez les parents vont induire des modifications liées au stress et tout ça sur les descendances.
Hein. Mais est-ce qu'on peut dire que la consommation de drogue peut modifier durablement le cerveau ?
Oui, absolument. C'est effectivement ça. Quand je parlais de mémoire pathologique tout à l'heure, c'est on peut visualiser dans le cerveau des neurones qui n'ont plus les mêmes propriétés, qui sont modifiés, qui ne répondent plus de la même façon. Donc on a, je disais, une espèce de corruption des systèmes qui sont normalement impliqués dans la prise de décision. Et ça, c'est lié au fait que certains neurones n'ont plus la capacité de répondre au circuit,
Oui, mais alors, quand on parlait au départ de récompense, de circuit, la récompense, et on dit que, vous l'avez dit, hein, qu'on peut être addict à différentes substances ou comportements, hein, donc par exemple le jeu, le téléphone portable aussi, le sexe, c'est reconnu aussi, l'addiction au sexe. Alors, c'est quand même aussi quelque chose un petit peu effrayant dans le sens où le plaisir, c'est quand même quelque chose d'agréable qui donne du goût à la vie. Si on doit se priver de plaisir par parce que ça peut rendre dépendant, ou trouver le bon équilibre? C'est ça la question.
Oui, effectivement, mais je crois que notre société a créé beaucoup de dépendance hein, avec toutes ces nouvelles activités, indépendamment des substances chimiques qui sont utilisées depuis des millénaires. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut dissocier le plaisir du bonheur. Donc en fait, c'est pas parce que... effectivement, on est très sollicité hein, par les réseaux sociaux, par nos smartphones.
Oui, donc d'ailleurs, la dépendance à Internet est aussi reconnue maintenant par l'Organisation Mondiale de la Santé. Les gens qui passent 10 heures par jour devant leur écran.
Le problème, c'est que ça nous dissocie du tissu social. Et finalement, c'est plutôt le tissu social qui nous rend heureux et plus que ces addictions.
Et ces addictions, même pour donc que ça soit l'activité sexuelle ou l'activité ou le temps passé sur Internet, fonctionnent de la même façon pour le cerveau. C'est la dopamine, c'est
ça,
le circuit de la récompense.
Alors, je vous parlais tout à l'heure de ces études qu'on peut faire chez l'homme avec des études d'imagerie cérébrale, et on voit ces mêmes régions du cerveau. Donc, ça permet de mesurer l'activité des neurones en temps réel, et on peut voir, par exemple, chez quelqu'un qui fait un jeu d'argent, il va avoir une récompense, et ben on peut voir ces neurones à dopamine qui sont plus actifs. À tel point que certaines industries qui font des jeux vidéo font appel à l'imagerie cérébrale pour mesurer l'activité des neurones dopaminergiques et pour optimiser leur jeu de façon à ce qu'il soit le plus addictif possible.
Autour de la question, nous parlons aujourd'hui des dépendances. Pourquoi le cerveau n'en fait parfois qu'à sa tête? Écoutons Baxter Dury, Cocaine Man. Nous sommes avec Jocelyne Caboche, neurobiologiste au CNRS et à l'université Sorbonne. Université, nous parlons des dépendances, des addictions. Jocelyne Caboche, d'après ce que vous nous dites, il y a en fait au moins trois paramètres qui sont quand même différents. C'est-à-dire, il y a la légalité ou l'illégalité. Hein, le tabac est légal, la cocaïne dont nous parle Baxter Dury est illégale. Il y a aussi l'addiction, vous nous parliez de l'échelle des addictions avec différentes substances qui sont plus ou moins addictives, mais indépendamment de leur légalité ou pas. Et puis, il y a aussi l'échelle, disons, des dangers. Le tabac, ces chiffres les plus récents font état de, en France, hein, 75 000 morts par an. L'alcool, au moins de 40 000 à peu près, je crois. Et les drogues illicites, donc 1 600, c'est déjà quand même beaucoup moins. Et si on parle des overdoses, c'est les derniers chiffres, environ 240 ou 250. Et pour le coût pour la société, 120 milliards par an pour l'alcool et le tabac, et 10 milliards pour les drogues illicites. Donc, le danger pour l'individu, le danger pour la santé, c'est quelque chose de totalement indépendant de la légalité ou pas.
Oui, absolument. Effectivement, c'est vrai que Sans doute parce que les drogues sont illégales, illicites, plus difficiles à se procurer. Effectivement, la consommation est moindre. Bon, c'est pas pour ça qu'il faut légaliser ces drogues, mais enfin non, il faut surtout pas les légaliser. Mais effectivement, on peut se poser la question de savoir s'il faudrait pas.
C'est un autre débat. On y reviendra tout à l'heure, justement, puisque dans certains pays, le cannabis au moins est même recommandé pour des usages thérapeutiques.
Le contrôle de l'usage des drogues licites doit être effectivement contrôlé, donc il faut qu'il y ait une prévention auprès du public, auprès des jeunes.
Il y a un plan national de mobilisation contre les addictions entre 2018 et 2022. Vous y participez, vous, en tant que neurobiologiste ?
Non, pas du tout. Donc ça, c'est le plan national de mobilisation. C'est a été édité par la MILDECA, qui est la mission interministérielle pour la lutte contre la drogue et les consommations abusives, donc qui a établi ce plan national, donc avec les chiffres que vous venez de mentionner, et qui montre l'urgence d'agir contre les addictions, toutes les addictions, avec un accent particulier sur la prévention et le soutien psychologique.
Alors, venons-y justement à la prévention, les modes d'action, le soutien, les remèdes. Vous savez, quand on a des invités ici, on leur demande parfois leur avis, leur témoignage. Et nous avons reçu le physicien Stéphane Douady. Écoutons sa réflexion justement.
Il y a plusieurs aspects. Il y a une question personnelle sur quand on est addict. Comment est-ce qu'on arrive à gérer sa propre addiction et à prendre des distances avec ça? Moi, je sais que j'ai toujours été à la frontière, en fait. Je me suis toujours dit, par exemple, je buvais de l'alcool, comme tout le monde, c'était culturel. Il y a eu un moment où je me disais, ah, mais en fait, j'ai envie de boire de l'alcool ce soir. Je me disais, ah non, tu te rapproches. Donc, il y a aussi des caractères qui peuvent se laisser aller ou résister. Donc, ça, c'est et comment, si on a un mauvais caractère, par exemple, enfin, mauvais, si on a justement un caractère qui nous laisse aller dans l'addiction, comment est-ce qu'on peut s'en sortir? C'est une question. Mais ça, c'est une question personnelle. Il y a le côté social, exactement culturel, qui est très important. Et ce que j'ai entendu dire récemment, c'était que ce qu'ils ont trouvé de mieux pour aider les gens à sortir des addictions. Et en fait, la méthode qui marche le mieux, c'est de permettre de donner le produit. Si les gens sont addicts à un produit, on leur donne le produit. Et en fait, ce que j'ai entendu dire, c'est que ça leur donne du temps à penser à autre chose. Au lieu de penser à comment est-ce que je vais réussir à trouver de l'argent, du temps, etc., pour pouvoir m'acheter ma dose, qui devient la seule pensée unique des personnes addictes, et ben, on leur dit, bon, ben, j'ai ma dose, maintenant moi, je peux penser à autre chose. Et que c'est ça qui leur permet de sortir en fait, du cercle vicieux.
Jocelyne Caboche, c'est très original le point de vue de Stéphane Douady et pas forcément politiquement correct, puisque justement ce qu'il dit c'est que, eh bien, donnons le produit, la substance tant désirée par les gens qui sont addicts, les toxicomanes, comme ça ils pourront penser à autre chose plutôt que d'être omnubilés, monopolisés par la recherche de leurs produits. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Moi je pense que c'est extrêmement dangereux, parce qu'effectivement je sais que c'est... Au-delà de l'aspect compulsif de la recherche de la drogue, il y a cet aspect de l'empreinte, on va dire, de la substance. C'est-à-dire que si effectivement on passe moins de temps et qu'on prend quand même de la drogue, mais de façon un peu plus importante, parce qu'elle est libre d'accès et d'utilisation, l'empreinte au niveau du cerveau et des circuits de la récompense sera progressivement plus forte. Et donc l'addiction sera forcément plus importante. Donc pour moi, c'est extrêmement dangereux. Alors effectivement, on peut penser aux salles de shoot. Donc est-ce que c'est une bonne solution? Effectivement, permettre à certains addicts d'avoir accès dans des conditions contrôlées à des drogues, je pense à l'héroïne, etc. Effectivement, ça évite justement cette espèce de corruption de temps à passer à autre chose, surtout les infections liées à des aiguilles qui sont contaminées, tout ça. Mais ça ne veut absolument pas dire qu'il faut dépénaliser ces substances.
Oui, après, disons que c'est un autre débat dans lequel nous n'avons pas le temps
nous
de rentrer.
Nous n'avons pas rentré.
Pas le but de l'émission.
Mais sur neurobiologie, c'est que c'est dangereux.
Mais justement, alors, pour en rester sur le plan de la neurobiologie, qui est votre discipline, il y a quand même des utilisations thérapeutiques dans certains pays. Et justement, écoutons cet extrait d'un reportage du journal de France 2 sur l'utilisation du cannabis thérapeutique.
En fait, le cannabis est conseillé pour calmer certaines douleurs, en cas par exemple de cancer, de sida ou de sclérose en plaques. Et déjà, quelques patients y sont favorables.
C'est un bon produit. Maintenant que je peux, je vais en demander à mon médecin.
Ma sœur prend de la morphine car elle a un cancer. Ce serait peut-être mieux si elle prenait du cannabis.
Jocelyne Caboche, quand on utilise un produit pour soigner, il y a toujours des avantages, des inconvénients. On appelle cela des risques, des bénéfices. Alors, si le cannabis peut présenter certes des risques d'addiction, mais d'un autre côté des bénéfices pour la santé, alors dans certains pays, on le prescrit. Cette notion d'addiction dangereuse, elle est un peu à géométrie variable selon les pays.
Oui, c'est vrai que le cannabis thérapeutique, ça peut être une solution dans des conditions, on va dire, contrôlées, toujours, encore une fois, effectivement, parce que le produit consommé à outrance induit ces addictions et d'autres effets qui sont négatif, une désociabilisation, une déscolarisation chez les jeunes. Donc voilà, donc effectivement, on est confronté à cette possibilité de traiter des gens qui ont des douleurs chroniques extrêmement invalidantes. Alors on parle de cancer ou de sida. Il ne faut pas que ça se généralise sur des douleurs plus bénignes, on est d'accord. Et dans tous les cas, il faut que ça reste dans des conditions contrôlées, parce qu'il ne faut absolument pas effectivement que une dépendance puisse s'installer qui produit et qu'on peut avoir des addictions
au cannabis. On va pas faire le débat ici minutes de la fin sur la légalisation ou pas du cannabis thérapeutique, mais je voudrais quand même m'adresser là justement à la scientifique que vous êtes. D'un point de vue purement chimique, est-ce qu'il serait possible, je crois qu'il y a eu des études là-dessus justement, de concevoir des substances comme le cannabis, ce genre de choses, en ne gardant que les bons côtés, sans avoir les mauvais côtés. Est-ce que, du point de vue des molécules, ça serait possible?
Alors là, vous parlez pour les traitements de la douleur?
Par exemple, ou je crois aussi pour le cannabis, il y a des expériences dans ce but, c'est-à-dire... Toujours, on parle de cannabis thérapeutique, là, de médicaments en quelque sorte, c'est-à-dire soulager la douleur, relaxer, mais sans avoir la dépendance, ni la descente, ni la dépression, ni ce genre d'effet néfaste.
Alors la douleur, elle est essentiellement associée à des mécanismes qui sont centralisés au niveau du cerveau, mais la douleur, elle vient des organes périphériques. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez un cancer des os, la douleur, elle vient des os. Et le fait qu'il y ait de la douleur, c'est lié au fait qu'il y a des récepteurs pour ces opiacés ou pour les cannabinoïdes dans ces organes périphériques. Et donc, l'idée, c'est de soigner la douleur sans atteindre le cerveau. C'est-à-dire, en fait, on va
calmer la douleur directement sur l'organe qui fait mal.
Sur l'organe qui fait mal. Donc, une équipe française a récemment mis au point une stratégie qui pourrait être intéressante, c'est de mettre des opioïdes, des opioïdes naturels, dans des petites, ce qu'on appelle des nanoparticules, ces petites molécules qui vont rester sur l'endroit douloureux, mais qui ne vont pas diffuser dans le cerveau.
Parce que si on va dans le cerveau, on risque de créer une dépendance à ce moment-là.
Donc l'idée, c'est de dissocier la dépendance de la douleur, en fait.
D'accord. Donc dissocier la dépendance de la douleur, c'est court-circuiter le cerveau, puisque sinon le cerveau, lui, le circuit de la récompense risque de prendre le dessus, finalement, sur l'individu.
Voilà, et d'induire des effets néfastes.
Et vous-même, alors, vous êtes chercheuse fondamentale, mais vous avez aussi créé une start-up pour développer des molécules, justement, qui permettraient de lutter contre l'addiction. Parce que pour l'instant, ça n'existe pas, une pilule miracle qui permettrait de se libérer de la dépendance.
Alors, bon, pour ce qui est des traitements de l'addiction, il y a quelques essais cliniques en cours. Donc, ce que je vous disais, ce qui est vraiment dommageable dans l'addiction, c'est les rechutes après des sevrages. Et c'est vrai qu'on n'arrive pas à bloquer les mécanismes cérébraux qui sont à l'origine de l'addiction. Donc nous, on a essayé de travailler sur cette plasticité neuronale, cette mémoire pathologique.
Plasticité neuronale, ça veut dire quoi exactement?
Effectivement, on n'a pas parlé de ça. Je vous ai parlé de pathologie associée donc à une mémoire pathologique. Et en fait, c'est associé à des remaniements des circuits neuronaux, des remaniements des neurones, qui sont normalement impliqués dans la mémoire.
C'est-à-dire qu'il y a des modifications dans le cerveau, un peu comme une sorte de Lego, et puis ces modifications sont durables. Le cerveau a changé de forme d'une certaine façon. Enfin, les neurones, l'avancement des neurones.
Alors, on va revenir sur la plasticité neuronale, c'est un processus qui est naturel, qui est physiologique, qui toute la vie, toute notre vie, vous savez que le nombre de neurones que nous avons dans notre cerveau à la naissance est limité, et la seule façon que nous avons d'améliorer nos performances intellectuelles, physiques, c'est d'établir des nouvelles connexions, et c'est ça qu'on appelle la plasticité,
faire travailler
le cerveau. Donc ça c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est quand ce processus se met en place dans les circuits de la récompense, parce que du coup il y a une trace persistante au niveau de ces neurones qui normalement sont impliqués dans la prise de décision, et il y a une persévérance sur la prise de drogue qui est associée à cette plasticité neuronale.
Mais alors vous,
on a travaillé à l'intérieur des cellules sur ce qu'on appelle les cascades de signalisation. Donc c'est un peu compliqué, c'est une cascade d'événements intracellulaires qui conduit à la plasticité neuronale, et on a dessiné, on a breveté des molécules qui bloquent cette plasticité neuronale, et du coup on peut envisager, on a testé dans différents tests précliniques, enfin des modèles animaux chez la souris, et on voit qu'on bloque certains comportements associés à la cocaïne.
Très concrètement, ça veut dire que par exemple une personne qui serait addict, accro à la cocaïne, prend cette pilule et puis elle se libère de sa dépendance.
Alors voilà, le problème, en fait nous on pense que ce serait plus utile sur ce qu'on appelle la comorbidité. Je vous ai parlé tout à l'heure de la dépression qui intervient quand il y a la rechute.
Ça veut dire quoi?
Excusez-moi, c'est des effets secondaires. Donc effectivement, quand vous faites un sevrage, vous avez cette espèce de chute, de dépression, le manque.
Oui, la descente, la dépression,
etc.
La...
Et donc nous, on travaille plus sur la dépression en fait, parce que bon, en plus c'est une autre maladie mentale qui est très importante dans le monde, et on fait du développement clinique, enfin préclinique à la clinique pour.
Et cette pilule magique, est-ce qu'elle pourrait marcher, par exemple, pour les chagrins d'amour, la dépendance à l'être aimé?
Pourquoi pas?
Oui, c'est une forme de dépendance, l'amour, non?
De manque d'amour, vous voulez dire.
De manque d'amour, mais non, ah, oui, quelqu'un oui, qui est dépendant de l'autre, par exemple, puisqu'on a parlé, on n'a pas eu le temps de développer, mais l'addiction au sexe, il y a des cliniques aux États-Unis
qui
guérissent les addictions au sexe.
Qu'est-ce que vous en pensez? On peut dissocier amour et sexe. Hein. L'amour est aussi associé au bonheur, au tissu social. Le sexe est.
Oui, mais il y a eu des milliers de pages d'auteurs, d'écrivains sur la dépendance à l'amour. Alors, est-ce que la neurobiologiste que vous êtes concevoir une pilule miracle?
D'accord, mais écoutez, j'avais pas pensé. Mais pourquoi pas?
Pourquoi pas? C'est une forme de drogue aussi, d'une certaine façon.
Bien sûr.
Mais d'ailleurs, justement, en quelques mots, comment est-ce qu'on fait dans ces cliniques de thérapie pour se libérer des addictions sexuelles qui existe notamment aux États-Unis? Est-ce qu'on procède de la même façon? On donne des médicaments? Il y a quoi alors?
Eh bien là, je vous dirais, je ne sais pas. Oui. Je ne suis pas très renseignée.
La cocaïne, c'est plus simple finalement.
Oui, non, mais je suppose que c'est la même chose. On passe sur un sevrage, peut-être un suivi psychologique, peut-être aussi des méthodes un petit peu de relaxation, méditation, qui permet de remettre un petit peu tout ça à plat, l'état de conscience.
Voilà, mais écoutez, donc merci en tout cas pour nous avoir aidé à comprendre comment le cerveau peut nous rendre dépendants, et puis aider les personnes dépendantes de s'en libérer. En tout cas, Jocelyne Caboche, merci.
Merci à vous.
C'était Autour de la question avec Hugo Violas à la réalisation et Juliette Brault en coulisses. Demain, ce sera la revue de presse scientifique avec nos amis journalistes. Portez-vous bien, merci de votre fidélité. Dans quelques instants, les infos sur la radio mondiale. Et petite précision, la semaine du son, les conférences de la semaine du son sont écoutables en ligne sur le site La Semaine du Son. Pas de semaine du son, la semaine du cerveau. J'ai dit la semaine du son, la semaine du cerveau.
Très bien, merci beaucoup.
Et la semaine du son, mais c'est autre chose. La semaine du cerveau.
Merci beaucoup.